Bon, je vais passer la parole à Justin. Je crois qu'on change complètement d'époque. Hein, qui va nous, donc Justin est professeur à l'Université d'Amiens. Et donc, il va nous parler d'un groupe Avray, en l'occurrence.
Alors, moi, je vais vous parler d'un groupe Avray, paradoxalement très discret, par rapport aux autres dont on a beaucoup parlé ce matin. Donc, Lou Larsen. Mais comme le disait Arthur Lee, donc le chanteur de Love, il disait sans doute on n'avait pas eu le groupe le plus populaire au monde, mais on a eu le groupe qui avait le meilleur titre. Voilà. Et donc, Lou Larsen, d'un certain côté, c'est toute une esthétique dans un seul mot. C'est toute une esthétique dans un seul titre. On voit... Non, c'est plus bon. Ça va redevenir bon. Et donc, le nom de ce groupe Avray, formé au début des années 80, autour du musicien et poète Luc Richer, est à lui seul un oxymore magnifique, puisqu'il entend rapprocher le roman de Jack London, Le Loup des Mers, dont vous devriez avoir des images d'ailleurs de Riff Rebs qui est ici. Donc ce roman de l'énergie incontrôlée libérée par l'instrument emblématique du rock, donc Lou Larsen. Le point de rencontre s'opérant bien autour de la fureur des éléments maritimes et la fureur des sons, fureur musicale mais aussi fureur métaphysique, puisque le roman, donc... John London, finalement, est une révolte contre les limites de l'humanité, une tentative de dépasser cela. Et aussi, donc, un groupe qui est un hommage au destin brisé du Havre, port qui rejoint les descriptions que John London a faites de nombreux ports dans ses œuvres, de l'Alaska qui décrit aux îles du Pacifique, et notamment au bas-fond de San Francisco. Donc, influencé aussi bien par la poésie de Pierre McCorlan que par l'énergie des clashs et des jams, Lou Larsen dresse, donc depuis 40 ans, même si le groupe est un peu en veilleuse en ce moment, le portrait d'une ville profondément humaine, redonnant ses lettres de noblesse à une tradition littéraire et cinématographique, puisque Le Havre est aussi une ville d'images et de cinéma, donc celle du réalisme politique, du réalisme poétique, pardon, beau lapsus. Donc, alors, on allait avoir des images, bon, peut-être qu'on les aura dans quelques minutes, mais sinon je vais vous les mimer. Alors, comme le fait remarquer donc Luc Richer, le fondateur du groupe, l'influence de John London a été prépondérante au sein de son cheminement artistique. Issu de la classe ouvrière havraise, le parcours décrit dans Martin Eden a très tôt résonné avec le choix de devenir écrivain, la musique étant envisagée comme le prolongement des cris et des espoirs portés par les mots, une autre manière de faire de la poésie avec de la guitare. Mais là où d'autres croisements entre poésie et rock'n'roll se sont imaginés autour, par exemple, de la Beat Generation, ou à partir de l'incandescence rimbaldienne pour Patti Smith, par exemple, Luc Richer s'inscrit, lui, au plus près du paysage urbain dans une ville dont il cherche à décrire les vies minuscules, pour reprendre l'expression de Pierre Michon. Et en cela, Luc Richer rejoint à la fois une tradition française de la chanson réaliste, justement illustrée par Pierre McCorlan, comme le fait remarquer Riff Rebs, qui retrace en fait sa passion pour Pierre McCorlan aux chansons réalistes qu'il a pu écouter dans son enfance. Mais aussi, il y a toute une tradition du rock britannique qui a eu l'art très tôt de décrire en quelques chansons des vies brisées. Alors, par exemple, Eleanor Rigby ou Lady Madonna des Beatles. On ne pense pas forcément aux Beatles comme finalement des gens décrivant le prolétariat, mais une partie, c'est ça. C'est sur la clé. Ça marchait il y a 2 minutes, mais je dois être damné. Bon, les Who, évidemment, qui décrivent donc les perdants magnifiques et crâneurs de la génération mode, mais surtout les Kinks, qui, on retrouve avec Lou Larsen, la capacité à raconter en quelques lignes des histoires drôles et cruelles, à inventer des images à la fois poétiques et éminemment concrètes. Alors peut-être le dandysme britannique en moins pour Lou Larsen. Mais si ces paroles ont bien les mêmes origines et la même fonction, donc la parole de la poésie et la parole rock, donner voix à ceux qui en sont exclus, pour Luc Richer, les activités de poète et de compositeur ne se confondent jamais, chaque expression conservant sa spécificité propre. Alors il ne s'agit pas de faire de la poésie rock, au sens où par exemple Bob Dylan part du rock ou du folk pour aller vers la poésie beat, ou, à l'inverse, comme Yves Adrien part, lui, autre héros français du punk, il part, lui, de la littérature pour aller vers l'énergie que représentent les Stooges et cherche à incorporer cette énergie dans sa littérature. Il s'agit au contraire pour Luc de séparer les deux, d'avoir deux langages complémentaires. L'un construit évidemment pour l'oralité, la foule et l'impact immédiat, ça c'est la poésie rock, l'autre pour le lyrisme et la présence intime du texte. Et donc là, j'ai ramené ces publications poétiques. Rares sont donc les moments où le collectif Lou Larsen met en musique les textes du poète Luc Richer. Donc, Joie de la terre, Enlèvement ou Zampano, issus du recueil Vendange tardive, sont de rares exceptions en 2010. Alors, d'autres ont eu cette séparation aussi. Jim Morrison n'a jamais mis en musique ses propres textes avec les Doors. Il les a enregistrés de manière très différente à la fin de sa vie. Patti Smith a aussi une production poétique qu'elle ne met pas forcément en musique. Et à chaque fois que Luc Richer, avec Lou Larsen, a pu le faire, les mots sont comme au contraire susurrés au micro et non scandés pour le grand public. Une expérience proche du spoken word, d'ailleurs jamais repris sur scène. Aucun de ses poèmes dont il a quand même fait une interprétation musicale, n'est devenu quelque chose de scénique. Il s'agit dans chaque cas d'interprétations poétiques au sein desquelles Luc Richer retrouve justement la voix chaude et la scansion lente d'un conteur qui n'est plus, qui ne peut plus être, celle du leader d'un groupe rock, tel qu'on peut l'entendre par exemple dans « Quand on joue du rock'n'roll ». Ah ben voilà, alors ce sera plus simple parce que du coup vous pourrez aussi voir les paroles en même temps. Ah non. Si. Donc tu parles dans l'hypercute, le corps s'électrocute, le corps dit encore quand on joue rock'n'roll. Le parcours de Luc Richer, donc de Lou Larsen, dont il est important le parolier, le compositeur, ne se confond donc pas avec celui du poète. Mais les mêmes mots portent un regard commun sur la ville et ses habitants. Regard dont nous allons maintenant comprendre la genèse. Alors, chaque partie a en quelque sorte un sous-titre, un chapitre, qui est plus facile quand on le voit. Mais j'avais intitulé cette deuxième partie « Un enfant d'Astonia, le Havre entre table rase et croisement », qui va reprendre une partie de ce qui a été dit précédemment sur pourquoi une musique punk a pu naître au Havre peut-être plus facilement qu'ailleurs. En 1984, Luc Richer publie « Un enfant d'Astonia » et dresse au cœur de sa poésie une généalogie toute personnelle entre sa propre naissance au début des années 50 et la destruction brutale du Havre le 5 septembre 1944, puisque Astonia était le nom de code de cette destruction. Espace urbain devenu en quelques heures table rase, ville en ruine livrée pendant plus de 10 ans à la reconstruction planifiée des architectes et des urbanistes, ville blessée et haïe par ses habitants, donc pour avoir vécu 10 ans au Havre ici, et avoir vécu cette transition, je me rappelle très bien les moments où le Havre a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui a basculé le regard des Havrais sur leur propre ville, et dire, ah, si finalement on est dans les mêmes catégories que Bora Badour et le Taj Mahal, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à regarder aussi. Et puis il y a eu le retour du France, appelé le Norway, mais donc la ville a, voilà, à un moment retrouvé un regard sur elle-même qu'elle n'avait évidemment pas au moment des années 70-80. Donc, je passe un peu plus rapidement. Il y a aussi, selon Luc Richer, des raisons à la fois émotionnelles et poétiques à la naissance d'une scène punk au Havre. La proximité quotidienne avec le désastre, la familiarité avec les ruines et la mémoire en miettes d'un passé glorieux, mais révolu, invente une prédisposition à la destruction, donnant naissance, plus qu'ailleurs, à un imaginaire de la table rase, déjà proche de l'esthétique punk, favorisant sans doute une écoute sympathique et une compréhension intime de l'énergie comme du désespoir contenue dans la musique venue de l'autre côté de l'eau. Dans la musique de Lou Larsen, comme dans la poésie de Luc Richer, la ville du Havre est ainsi en souffrance, telle que nous l'entendons au cœur du poème donc Fleuve en 2010. Ah, alors, est-ce que ça marche? Oui, voilà. Donc très rapidement, vous allez récupérer les images jusqu'au présent. Voilà donc les images de Reframes autour donc, de l'adaptation du Loup des Mers, qui est donc la moitié du titre. Du groupe de Luc Richer, ici son travail autour de Pierre Macorlan. Donc, Un enfant d'Astonia, quelques images de la destruction. Voilà. Et ce poème qui parle donc des cadavres, du fleuve, et particulièrement des mots et de l'écoute. Encore fallait-il que, comme on l'a précisé tout à l'heure, le punk puisse pénétrer au Havre. Et là, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, un va-et-vient dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, le Havre a été une porte d'entrée pour les groupes anglais qui venaient, en effet, jouer ici. D'un autre côté, ça a été la possibilité pour, pas cher en quelque sorte, pour un prolétariat havrais d'aller en Angleterre, avec des prix défiant toute concurrence sur les ferries, qui permettaient de traverser la nuit, de passer la journée à Londres ou en Angleterre, et de revenir le lendemain. Donc, c'est un mélange assez intéressant entre un capitalisme, finalement, financier qui a besoin de rentabiliser des bateaux et qui permet à des gens qui, sans cela, n'auraient jamais eu l'occasion d'aller pour pas cher découvrir une musique et de ramener cette musique. Et ici, un texte assez intéressant donc de Lou Larsen, Saint-François Rhythm and Blues, où Lux rappelle justement tous ces concerts. Donc on a parlé des salles, on a parlé, etc. Voilà, et là, c'est donc l'influence plutôt rhythm and blues, mais que porte aussi le punk. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Ce qui va être passionnant en suivant en fait toute l'évolution de ce groupe, c'est un peu l'angle d'attaque que j'ai choisi, c'est comment est-ce que ce groupe a parlé de la ville. Ce groupe parle d'énormément de choses. Il a d'ailleurs... Il est scindé en deux, en quelque sorte. Alors, si vous allez sur le site, c'est assez clair. Il y a une partie en anglais que j'ai décidé de ne pas traiter, même si le punk doit exister en anglais. J'ai décidé de m'intéresser à la partie française qui est plus liée justement à sa pratique poétique et de faire les liens entre sa pratique poétique, d'où l'idée de créer une poésie du populaire, c'est-à-dire de créer de la poésie à partir du populaire et du peuple, et non pas une poésie populaire, comme, je ne sais pas, Prévert, par exemple, pouvait l'inventer. Première partie, donc, décrire le paysage urbain, donc décrire la ville. Avant tout, le Havre est une couleur, comme le fait remarquer Luc Richer. Le Havre, c'est d'abord une certaine qualité de gris, celle du béton, de la mer, comme celle des âmes et des êtres, telle que nous donne à voir donc, le poème « Papa danse dans l'autorail », et particulièrement, donc, pas de train, seulement quelques galets du Havre en nuances de gris et la mer à l'étal. Donc, je vous laisse lire en même temps que je parle. Si je lis ce qui est écrit, c'est un peu redondant. Donc, bien sûr, il n'existe pas que cette vision donc pâle et délavée du Havre. Et juste tout à l'heure, on avait Cocor qui est là, autre auteur de bande dessinée à vrai, parce que le Havre est une ville donc de musique, une ville de cinéma, une ville de littérature et une ville de bande dessinée. Voilà. Cocor, au contraire, dans Au-delà des mers, décrit un Havre plein de couleurs, avec des bleus profonds, des oranges, des rouges, etc. Mais pour Lou Larsen, tout se passe dans un Havre qui se décline toujours en nuit et en orage, se comprend entre la pluie du soir et les petits matins glaciales. En suivant pas à pas les compositions du groupe, on parcourt ainsi une véritable carte sensible au sein de laquelle l'espace urbain possède la couleur typique des hommes du Nord, tel que met en scène un autre poème, donc Yves Barbier s'en vient, complicité d'hommes d'automne et de brouillard industriel, complicité du Nord. Pour Lou Larsen, la ville se compose de trois éléments qui se recomposent sans cesse, de parole en parole, la mer, les rues et le port. Premier élément, donc, la mer, les flots, le sable et la mort. Un poème, donc, voilà, un poème de Luc Richer qui s'appelle « Une affiche de la mer » offre une description de la ville entre ciel et terre, entre architecture de Perret et flots qui lui font face. Donc là, je le lis, c'est une phrase plus courte. « Les épis de béton à demi découverts s'enfonçaient dans l'écume et moi je regardais ». Une toponymie typiquement havraise que l'on retrouve au cœur de la composition noire. Alors on a envie de parler de composition noire comme on parle de film noir, en quelque sorte, qui s'appelle « Basse mer », qui est ici, où se mêlent, comme dans le reflet, le béton et la mer, la nuit et les larmes. Donc, ces paroles. Lou Larsen développe ainsi une vision profondément romantique en ce qu'elle décrit la nature comme l'extension des passions humaines. une vision qui permet à Luc Richer de reprendre à son compte le titre, donc Océano Nox de Victor Hugo, mais en actualisant la mort tragique des marins au cœur d'un capitalisme marchand qui ne tient plus compte des vies. Et donc vous rappelez où combien de capitaines ou combien de marins sont partis, etc. Mais ici, on a une version extrêmement capitaliste, brutal, comptable de ce poème, qui est en quelque sorte ramené dans le capitalisme. Et donc là, c'est juste un exemple, on a une litanie de tous les morts sur toutes les mers liées à tous ces bateaux poubelles, à tout ce capitalisme mortifère. La mer réapparaît aussi de manière, alors cette fois-ci, très décalée, très film noir, dans une composition donc, de Lou Larsen qui s'appelle « Les Goélands », dans un album qui s'appelle « Plan séquence », où chaque composition est liée, en quelque sorte, au cinéma. Alors, ce que je trouve très intéressant ici, donc je vous laisse lire en même temps, c'est la référence au film noir. C'est la référence à « Assurance sur la mort », le film de Bill Wilder, puisqu'on décide de faire, justement, jouer l'assurance que le mari a souscrit, rabattu, en quelque sorte, sur une falaise, rabattu au plus proche du peuple, et c'est l'un des éléments peut-être les moins frappants des compositions de Lou Larsen, c'est une certaine forme d'ironie. Alors c'est une ironie extrêmement élégante, et si on veut, Luc Richer refuse systématiquement ce qu'il appelle la chasse aux cons, c'est-à-dire que comment décrire des ambiances populaires, comment décrire un peuple, comment décrire ce qu'il y a de kitsch dans, par exemple, l'une de ses compositions qui s'appelle donc Pizza Télé, sans pour autant se moquer des personnes dont on décrit, y compris les travers, le kitsch, etc. Et dans Pizza Télé, quelqu'un rate en fait tous les meurtres de Dexter à la télé parce qu'il est constamment en train de manger sa pizza. Ce qui est très drôle, ce qui fait penser à cette citation donc, de « Watching the Detectives » de Elvis Costello, où elle regarde aussi les détectives en se faisant les ongles. Donc il y a une forme d'humour, mais qui n'est jamais cinglant et qui n'est jamais au détriment des personnes dont Luc veut absolument, et Lou Larsen veut absolument faire un portrait touchant. Ici, on retrouve cette idée du film noir, du film au bord de la mer, dans une composition donc, qui s'appelle « Cadillac au bord de la mer », où on retrouve vraiment ces influences de films noirs, et on retrouve même donc, Vince Taylor, un hommage à Vince Taylor, puisque « Brand New Cadillac », qui passe par les Clash aussi, qui reprennent « Brand New Cadillac » aussi. Donc la mer, la grisaille et le cinéma s'entremêlent finalement dans un poème, dans un long poème, ici, qui s'appelle donc « Coupure », devant nous un rectangle cinématographique, océan gris, ciel pâle. Et on retrouve donc le gris, la mer, le cinéma, et ce gris typiquement à vrai. Et il faut que je me dépêche. D'accord. Donc, très rapidement, je vais laisser mes notes, comme ça j'arriverai à parler un peu plus rapidement. On a ensuite l'idée, donc, deuxième composante du Havre, la rue. Voilà, la rue qui est décrite dans toute une série de compositions également. Donc une rue qui est toujours inquiétante, une rue qui est souvent néfaste. Voilà, ici le regard. Et dernier élément, donc, troisième élément de la ville du Havre, après la mer, la rue, le port. Le port qui est à la fois le lieu donc, des rencontres. Ici, on a une rencontre au petit matin. Donc à la fois donc, dans un poème et dans une composition du groupe. Donc l'idée était tout le temps d'alterner les deux. On a l'idée du départ. Et là, par exemple, c'est assez typique de l'art de Lou Larsen, qui est de dresser le portrait d'une femme un peu en surpoids qui rêve constamment de quitter cette ville. En montrant, j'allais dire, le kitsch de ces différentes envolées, les Fidji en avion, la Finlande à moto, etc., mais sans se moquer et sans dénigrer l'âme de la personne qui est au cœur du portrait. Ensuite, j'irai assez rapidement, mais un des albums très intéressants de Lou Larsen s'appelle Bléville, et c'est littéralement le portrait d'une ville, d'un quartier du Havre, donc un quartier en pleine transition, qui est un parti donc qui se trouve un peu sur les hauteurs, dont le nom même en quelque sorte est historique, Bléville, ça a été la campagne, c'est devenu la ville dans les années 60. C'est une ville où coexiste à la fois une population, on va dire, de classe moyenne et d'immigration, donc de bars et de petits pavillons. Et comme d'autres tentatives comme Berlin de Lou Reed ou comme Green Preservation Society des Kings, la volonté est de tracer le portrait. Donc on a le portrait en musique, on a le portrait voilà, étape par étape. Alors vous irez chercher plus les différentes composantes de ce très beau portrait qui décrit en fait une ville, qui décrit ses habitants. Et alors je vais passer aussi, mais l'idée a été à un moment de collaborer à partir de cet album autour d'un projet qui était photographique et poétique, puisque moi je me suis promené dans ce quartier pendant un an pour en faire en quelque sorte un portrait photographique, et Luc a repris ensuite ses photos pour créer lui-même un certain nombre de poèmes à partir de ces photos, mais en séparant ce qui était en quelque sorte de l'album et ce qui est devenu de la poésie. Et le lien s'est fait aussi pour moi parce que j'avais en tête cet album, donc Bléville, comme un microcosme du Havre, en me promenant dans ce quartier. Pour faire très très simple, je viens d'un univers intellectuel, émotionnel, très très éloigné de ce quartier, et j'avais beaucoup de mal à le comprendre, j'avais beaucoup de mal à comprendre les étudiants qui étaient là, les élèves qui étaient là, comment ça pouvait fonctionner. Et l'album Bléville a été pour moi la porte d'entrée dans cet espace géographique. Donc c'est les chansons de cet album qui m'ont aidé à comprendre, et Luc a ensuite revu à travers les images que j'avais faites, des poèmes qu'il avait lui-même et des compositions de l'album qu'il avait lui-même créées. Et juste pour donc terminer, puisque c'est la dernière citation, vous rappelez tous qu'à la fin donc de la Cité sans voile, The Naked City de Jules Dassin, le narrateur, la voix off, nous rappelle que l'histoire qu'on vient de voir n'est qu'une histoire parmi des millions d'histoires qui se passent à New York ce jour-là. Et Luc termine en quelque sorte, en 2010, son poème Le Marcheur, en racontant ces différents moments de la ville. Et il y avait bien trop de choses pour tout dire. Voilà, merci.
Alors, merci pour cette conférence. J'avoue que moi, je suis arrivé au Havre il y a maintenant 10 ans, et le fait que systématiquement le Havre soit associé à la mer, au port, etc., c'est quand même quelque chose que je trouve horriblement cliché, quoi. Quand on arrive à l'université, on vous dit qu'il faut travailler sur la mer, le Havre c'est la mer, etc. Moi, je rêve, j'avoue, de livres sur le Havre dans lesquels il n'y a pas la mer, il n'y a pas la plage, on parle d'autre chose. Je rêve d'audits dans lesquels on ne parle pas juste du béton à vrai. Et là, les paroles me font penser finalement à ce qu'on dit toujours habituellement sur le Havre, quoi. C'est cette ville de mer, de brume, etc. Mais je crois que c'est autre chose aussi, le Havre.
Oui, alors c'est autre chose. En même temps, ce port est fondamental à la fois dans l'imaginaire, et c'est ce qui a permis ces échanges.
Moi, j'ai vécu pas mal de temps en Havre, quelques années. J'allais très très peu à la plage et sur le port. Hein. Alors, je me demande si j'ai foutu les pieds une fois en 3 ans sur le port. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est... justement, je pense que cette ville, d'une certaine manière... C'est une ville qui meurt un petit peu de ses références permanentes à un univers qui est toujours le même, etc., qui ne se renouvelle pas. C'est-à-dire, on est vraiment toujours dans une série de clichés qui sont assez au Havre et qui font que son image, finalement, est plutôt positive parce qu'elle est complètement romantique. Vivre au Havre, ce n'est pas la mer, c'est pas... Enfin, bien évidemment, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais c'est quand même aussi autre chose. On passe par les quartiers pour aller à la fac, on passe par la place d'Anton, il y a des choses... Enfin, voilà, quoi. C'est plus la mer, c'est déjà tout à fait autre chose.
Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la mer et il y a le port. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Le port, c'est de l'industrie. Le port, c'est de l'industriel. Le port, c'est les dockers, qui sont quand même aussi politiquement, des gens qui ont tenu le Havre pendant très longtemps. Quand on parlait tout à l'heure des groupes punk qui étaient en quelque sorte intimidés par les dockers, s'il y a cette musique au Havre qui est née comme ça, c'est aussi parce que je pense qu'il y a une présence des dockers. La mer, je pense, peut avoir un côté... c'est pas pour rien si de l'autre côté de l'eau aussi il y a des peintres, etc., qui ont peint la mer. Il y a toute une série de clichés autour de ça. Le port, c'est le port, enfin, en tout cas ça l'a été, c'est le port industriel, c'est un prolétariat. même si c'est un prolétariat relativement bien payé. C'est des luttes sociales, c'est des luttes syndicales. Et ça forme quand même une partie importante du Havre pour des gens qui sont issus de cette classe ouvrière.
Ah, mais je le comprends parfaitement. Mais je dis que parfois, j'ai le sentiment qu'un certain nombre d'artistes ou autres, hein, ou même politiques, se complaient dans une image du Havre qui est quand même très éloignée de la réalité. C'est pas seulement ça, le Havre, en fait. C'est pas seulement cette ambiance crépusculaire. C'est plus qu'il y a des brumes, quoi. Et moi, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont dans le port régulièrement. Je sais pas comment ça se passe. Mais j'ai pas cette impression que ce soit... Par exemple, le port est pas intégré à la ville, en réalité. Parler du port, c'est quoi ? Ce qu'on voit depuis la plage, c'est-à-dire trois... Enfin, je sais pas. Je veux dire, d'une certaine manière, Rouen est une ville portuaire aussi. C'est une ville maritime, d'une certaine manière, en fait. Tournée sur la Seine, etc. Ça a toujours été le port de Paris, mais elle a construit une autre image. Mais après, c'est mon sentiment, c'est que parfois, globalement, on a caricaturé un peu cette ville.
Oui, alors.
Une image qui réduit son intérêt, en réalité.
Alors, je prends une autre ville comme Rouen, qui a un port qui est un peu décalé, c'est Baltimore. Et si vous regardez la série The Wire, il y a tout. Ça, sur les cinq saisons, il y en a une qui est unique, la deuxième qui est uniquement tournée vers le port. Et c'est vrai que d'avoir un port comme Baltimore, qui est un port intérieur, c'est pour ça que je pensais à Rouen, qui n'est pas un port sur la mer, mais qui est un port sur le fleuve, ça change considérablement et ça donne cette tonalité à Baltimore, par exemple, d'être à la fois une ville riche et une ville ouvrière, dont The Wire. Voilà.
Le Havre est une ville, je rappelle, qui est plus communiste depuis 20 ans. Il y a toujours des gens qui disent que c'est la ville communiste, mais sociologiquement, Arnaud pourra en parler. Est-ce que ça a vraiment été dans l'histoire du Havre, c'est vraiment une ville communiste? Ça se discute. Mais c'est la ville, c'est une ville de droite, c'est la ville du Premier ministre, du macronisme, etc. aujourd'hui. Non, mais c'est un coup de gueule, parce que je trouve qu'on perd à réduire cette ville uniquement à un passé ouvrier, etc., à un certain nombre de clichés,
et dans The Wire,
alors que c'est une ville qui est dynamique, où il se passe d'autres choses.
Mais dans The Wire, par exemple, que vous citiez, la saison 2, qui est sur le port, le port d'où arrive tout le mal à Baltimore, c'est le Havre. Hein. Je rappelle que les prostituées qui sont mortes dans le conteneur, le conteneur arrivé du Havre, toute la dope arrive du Havre. Il y a un imaginaire américain dans lequel le Havre a remplacé Marseille comme dans la French Connection. Quoi. Mais ça, et dans The Wire, c'est Baltimore le Havre. Hein. Et pas Rouen. Mais donc, ça existe aussi après. Bon.
Oui. Alors, sans réduire, j'allais dire, l'œuvre comme ça de Lou Larsen à l'imagerie du port, ce que je trouve très intéressant et ce que je vais essayer de montrer, c'est que Lou, à travers notamment la peine Bléville, c'est que c'est un groupe qui essaye de dire sa ville, qui essaye à différents moments de dire sa ville. Et c'est vrai que. Dans un imaginaire rock qui peut aussi être lié à celui donc des Cadillacs, à celui des films noirs, à celui des choses comme ça, il y a un certain imaginaire qui joue, il y a un certain nombre de clichés dont Lou Larsen se sert comme marqueur, en quelque sorte, tout en gardant cette distance. Voilà. D'où l'idée aussi, à travers, il y a toute une série de portraits féminins, par exemple, de femmes mal dans leur peau, etc., de classe ouvrière, dont il dresse un portrait très tendre, tout en montrant le kitsch de ce qu'il regarde à la télé, de ce qui est mangé, de ce qui est porté, de ce qui est vécu, etc. Et c'est cette frontière-là qui est très compliquée à garder, je trouve.
Ok, merci beaucoup, Justine.
Bien, merci.